BFM Business et la Tribune présentent les experts. Raphaël Legendre.
Allez, bonjour, il est 9h, passé de 30 minutes tout pile. Vous êtes en direct sur BFM Business, c'est les experts. On est ensemble pour une heure de débat et de controverse avec une question ce matin. Le gouvernement peut-il encore tenir sa trajectoire de réduction des déficits? Alors que les Français s'inquiètent de plus en plus du niveau de la dette, plus de 70% selon une dernière étude de l'Adresse. Un nouveau comité d'alerte des finances publiques se réunit aujourd'hui à Bercy. Croissance plus faible, dépenses de crise, majorité fragile. L'exécutif pilote-t-il encore les finances publiques ou se contente-t-il de constater les dérapages au fil de l'eau? Ce sera le premier thème des débats avec mes experts ce matin. Et puis, autre sujet, Marine Le Pen saura cet après-midi si elle peut ou pas se présenter à l'élection présidentielle. Pour le monde économique, Le Pen ou Bardella, est-ce vraiment différent? Ce sera le deuxième thème ce matin. Et puis nous irons aussi en Allemagne où le gouvernement prévoit plus de 600 milliards d'euros d'investissement dans la défense. Oui, 600 milliards d'ici 2030. Réarmement historique, mais réarmement à crédit. Alors, bonne nouvelle pour l'Europe ou bascule inquiétante? Ce sera le troisième débat des experts ce matin. Et puis enfin, l'IA chinoise, moins chère, performant, open source. Ces modèles séduisent de plus en plus entreprises et administrations. Mais peut-on dépendre de Pékin pour s'affranchir des géants américains? Ce sera le dernier thème des débats du jour. Voilà, il est 9h passé de 32 minutes. On est ensemble pour une heure de débat. C'est BFM Business, c'est les experts. Allez, c'est parti. Et pour parler de tout ça, j'ai le plaisir d'accueillir Agnès Verdier-Molinier sur le plateau. Bonjour Agnès.
Bonjour Raphaël.
Directrice de la fondation IFRAP. À vos côtés, Thomas Grébin. Bonjour Thomas.
Bonjour Raphaël.
Économiste à Sciences Po. Et j'ai le plaisir d'accueillir Olivier Provost. Bonjour Olivier.
Bonjour Raphaël.
Directeur et associé de Rumeurs Publiques. Premier thème, je l'ai dit, les déficits. Le gouvernement va-t-il réussir à tenir sa trajectoire de réduction des déficits cette année? Un comité d'alerte se tient aujourd'hui même à Bercy avec le Premier ministre, 5 ministres autour de lui et des Français inquiets, je le disais. Allez Agnès, honneur aux dames. Des Français inquiets, cette étude de l'Adresse hein, qui a dit qu'il y a quelques années encore, un Français sur deux s'inquiétait du niveau de la dette. C'est plus de 7 Français sur 10 aujourd'hui. Qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce qu'il faut attendre de ce comité d'alerte des finances publiques aujourd'hui?
Bah rien.
Non mais le taux d'inquiétude des Français face à la dette vient d'atteindre les 80%.
Non mais qu'est-ce qu'on attend d'un comité d'alerte qui n'a aucun pouvoir, qui ne va pas faire de propositions de baisse de dépenses, ils l'ont déjà dit, qui ne va pas nous emmener vers une loi de finances rectificative alors que vu ce qui est en train de se passer, alors plus d'inflation, moins de croissance, moins de recettes, etc. On aurait dû avoir une loi de finances rectificative déjà votée depuis le mois d'avril, dans un monde normal.
Mais est-ce qu'on peut voter des lois de finances rectificatives aujourd'hui avec l'Assemblée? On n'est plus dans un monde normal, on a une Assemblée en fusion permanente.
Oui, mais c'est pas normal, mais on peut pas... Pourquoi nos finances publiques vont dans le mur? C'est exactement pour cette raison. C'est parce que depuis 2022, on n'a pas de majorité à l'Assemblée nationale pour piloter le budget de la France. Et quand je dis le budget de la France, ça va au-delà du simple budget de l'État. C'est l'ensemble des administrations publiques.
Oui, c'est même plus la Sécu que l'État, finalement.
C'est plus la Sécu que l'État, mais il y a aussi les collectivités. Et à un moment, on est dans ce comité d'alerte avec, en fait, une sorte d'ersatz. Ça ne sert à rien, tout le monde le sait. Mais on va quand même commenter. Et on sait que, de toute façon, on continue d'enfoncer les objectifs parce que les 5%, mais qui y croit encore? Franchement, personne. Nous, on a sorti à la Fondation IFRAP une note de conjoncture en janvier de 2026 où on a dit qu'on ne serait pas à 5%, mais qu'on serait plutôt autour des 5,4. Et je pense qu'on est même gentil quand on dit 5,4 de déficit.
Donc, pourquoi? À cause de la baisse de la croissance? Parce que ça devrait être annoncé, là, quand même. Hein, soit aujourd'hui, soit dans les prochains jours.
Il y a
la révision de la croissance qui est toujours à 0,9%, je le rappelle.
Les effets de la guerre en Iran, etc.
Ouais. Olivier Provost, donc c'est quoi? Un exercice politique d'abord et avant tout?
C'est même du bricolage. C'est du bricolage. Et
et on ne peut faire que du bricolage. Tout le monde sait bien que face à cette dérive, il faut à un moment des mesures structurelles. C'est tout l'enjeu de 2027. Tant qu'il n'y a pas de mesures structurelles, on va faire du bricolage. On commence même à parler d'un budget 2027 qui va passer par ordonnance, qui sera une grande première sous la cinquième. Donc oui. Voilà, au mieux c'est du bricolage, au pire on va dans le mur. Mais vous voyez les efforts qu'il faut déployer pour trouver 10 petits milliards. Or l'enjeu il n'est pas là. L'enjeu il va se chiffrer en centaines de milliards. Donc à un moment, tout va être une question de courage politique. Ça va être tout le débat de 2027. Qui va oser ? Parce que vous parliez des Français, Raphaël, mais les Français sont totalement schizo. Ils sont schizo. Ils disent on s'inquiète de la dette, mais dès qu'on leur propose des mesures à un moment pour réduire la dette, ils disent pas touche à mon hôpital, pas touche à ma sécu, pas touche à mes médicaments, pas touche à mes collectivités. Donc fondamentalement, on est dans une schizophrénie de l'électeur et un manque de courage des politiques. C'est pas réjouissant.
Bon, on n'attend rien avant 2027, effectivement, mais la situation politique est telle qu'elle est, Thomas Grébin. C'est-à-dire qu'on peut rien faire voter à l'Assemblée nationale en ce moment.
Oui, je pense qu'il y a deux choses. Bon, je suis d'accord avec ce qui a été dit, mais je pense que c'est quand même important de pousser pour une prise de conscience collective, parce qu'on est quand même dans une situation différente de la période 22-23. Donc certes...
Qu'est-ce qui a changé ?
La bonne nouvelle, c'est qu'on a beaucoup moins dépensé. On n'est pas dans les plus de 70 milliards qui avaient été dépensés lors de la crise énergétique. Le ministre du Budget, hier, David Amiel, disait qu'on a dépensé 50 fois moins.
1,4 milliard.
Donc ça, c'est entre
plutôt
guillemets...
Plutôt que 72.
Chouette.
La bonne nouvelle, mais la mauvaise nouvelle...
Non, bon, 72 milliards d'un côté, 1,4 milliard de l'autre. C'est vrai qu'on n'est plus du tout dans la même logique.
On a beaucoup moins dépensé que nos voisins, l'Espagne, qui était plutôt autour de 5 milliards. L'Allemagne autour de 4 milliards. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. La mauvaise, c'est que d'un point de vue macroéconomique, on est en situation différente. En 22-23, le taux de croissance de l'économie, le taux de croissance réel, était supérieur au taux d'intérêt réel. Donc, ce qui signifiait qu'on pouvait stabiliser la dette sans avoir d'excédent primaire. Là, aujourd'hui, on est dans une situation complètement différente parce que le gros risque, c'est que nos taux d'intérêt soient supérieurs à notre taux de croissance.
C'est un risque ou il me semble que c'est déjà effectif.
Oui, c'est plus ou moins effectif, mais disons qu'on est dans la marge d'incertitude. Quoi. Ouais. En tout cas, il y a un risque d'effet à la
liste. Il faut bien expliquer, parce qu'il y a une formule en économie, mais pour tous ceux qui nous écoutent, tout le monde ne la connaît pas, c'est R supérieur à G. Quand les taux d'intérêt de remboursement de votre dette sont supérieurs à la création de richesse que vous faites chaque année, évidemment, c'est un effet boule de neige sur la dette, et on est là, aujourd'hui, dans les deux cas, à peu près autour de 2%, c'est ça ?
Ah ouais. Et donc là, on est dans une situation où il y a en effet un risque d'effet boule de neige. Et donc, ça veut dire que quand vous avez 5% ou plus de 5% de déficit par an, vous devez rembourser plus de 160 milliards par an. Et un des gros problèmes, c'est qu'on commence à avoir des déficits structurels, y compris au sein de la sécurité sociale.
Mais c'est vrai qu'on a l'impression que le 5% est devenu le nouveau 3%. Ouais. C'est-à-dire qu'il fallait toujours être à 3% maintenant, on décolle plus des
5%. On est quand même 5, là quoi. Depuis 2-3 ans, autour de 20 milliards de déficits de la sécurité sociale. Alors,
ouais, même un
pour
peu
le
plus.
Coup, la sécurité sociale, c'est censé être équilibré. Donc, comme il a été dit, je pense qu'on a un gros problème de déficit avec des postes structurels. Pour mémoire, les retraites, c'est 25% de nos dépenses publiques. La santé, c'est autour de 20% des dépenses publiques. Et ce qui a augmenté depuis 25 ans, c'est pas les dépenses de l'État à proprement parler, c'est les dépenses des collectivités territoriales et c'est les dépenses de la sécurité sociale qui ont augmenté de presque de 2 points par an en volume, c'est-à-dire 2 fois plus que les dépenses de l'État. Donc il y a véritablement 2 gros postes auxquels il faut s'attaquer, c'est la sécurité sociale et c'est les dépenses des collectivités territoriales. Mais évidemment, dans le contexte budgétaire actuel, on voit bien que toucher aux collectivités territoriales, c'est très compliqué et évidemment toucher à la sécurité sociale aussi, c'est très dur.
C'est une machine infernale.
Pourquoi on n'arrive pas à faire des efforts comme ça en France, Olivier?
Oui, mais c'est une machine infernale. Vous prenez la sécu, regardez le vieillissement de la population. Fondamentalement, nos dépenses de sécu ne vont faire qu'augmenter si à un moment, on ne met pas des limites.
Oui, mais enfin, on peut les freiner aussi. Il y a plus de 20 milliards de déficit de la sécu. 15 milliards imputables à l'assurance maladie. Donc, le gros du déficit actuel de la Sécu, c'est l'assurance maladie.
Oui. Il y a des annonces qui ont été faites, 800 millions d'efforts sur les arrêts de travail.
Mais non, mais.
Vient d'annoncer le ministre du Travail.
On a plus de 30 milliards de dépenses annuels de d'arrêt maladie en France entre le privé et le public.
Il faut dire que ça a explosé depuis le Covid.
C'est gigantesque, par exemple, par rapport aux Allemands, c'est gigantesque. Comment ça se fait? Comment ça se fait qu'on a autant d'arrêts maladie dans le public, par exemple? Parce que c'est exorbitant.
Il y a un écart important entre le privé et le public.
Mais c'est-à-dire que on a un coût des arrêts maladie du public qui est quasiment aussi important que les arrêts maladie du privé, alors qu'il n'y a que 20% des personnes qui travaillent dans le public. Donc, à un moment, il faut peut-être qu'il y ait des petits warnings qui s'allument en se disant...
Des gros warnings.
Tiens, c'est bizarre qu'on dépense autant d'arrêts maladie dans le public. Alors, parce que ce n'est pas les mêmes règles
Non, mais comment on fait pour régler ça, pardon? Mais il y a des médecins, non? Il y a des médecins
qui rédigent
des ordonnances.
Il y a des choses assez simples, Raphaël. On baisse le taux de remplacement en arrêt maladie dans le public. On le baisse aussi potentiellement. On l'a déjà baissé dans le privé. Il faut le baisser encore plus dans le public. Ça a grincé des dents. Hein. Quand Gabriel Attal, quand il était Premier ministre, il avait mis dans le budget, et c'est resté, qu'on indemniserait sur les trois premiers mois qu'à 90% de la rémunération des agents.
Ça
a fait un tollé. Et les collectivités locales, vous parliez des collectivités locales, qui disent toujours que l'État leur impose des dépenses supplémentaires. Là, pour une fois, l'État leur imposait des dépenses en moins. Ils ne voulaient pas appliquer le dispositif de baisse. Pourquoi ? Parce que ça allait faire du temps administratif d'ouverture de dossier. Ça veut dire quand même que beaucoup de collectivités locales n'ouvrent pas de dossier quand il y a une absence d'un de leurs agents. Donc ça pose quand même question sur le suivi des absences maladie dans l'ensemble de nos collectivités, puisqu'on sait que c'est là où il y a le plus d'arrêts maladie. Donc là, il y a un énorme problème. Il y a un énorme problème sur les coûts de gestion de la maladie, parce que la maladie en France, c'est 17 milliards de coûts de gestion entre l'assurance maladie.
17 milliards d'euros de coûts de gestion administratifs des arrêts maladie.
Ouais, non, mais pas que les arrêts maladie, la totalité.
De la santé.
De la santé.
Mais en coûts de gestion.
En coûts de gestion. Et alors, ça, là-dessus, on est 7 milliards au-dessus des voisins européens. Ce n'est pas du soin supplémentaire pour les Français, ce n'est pas de la qualité de soins, ce n'est pas de l'accueil.
C'est de la performance administrative pure, on est d'accord.
Il y a un truc, là, on peut économiser 7 milliards. Pourquoi on a ce coût de gestion? Parce qu'on a l'assurance maladie obligatoire plus les complémentaires.
Oui.
Si jamais on se mettait dans la logique de dire on fait de l'assurance au premier euro, en concurrence, comme c'est le cas au
Pays. Vous êtes pour une grande sécu?
Ah ben non, surtout pas.
Qui absorberait
surtout pas,
les mutuelles?
Surtout pas, parce que là on aurait une qualité de soins qui baisserait très très vite. Alors que si on se met dans une logique de mettre en concurrence, et c'est ce qu'ont choisi les Suisses par une votation, hein, c'est super intéressant, il y a quelques années, on leur a demandé, vous préférez une grande sécu ou préférez choisir votre assureur au premier euro avec des coûts de gestion qui sont vissés? Ils ont choisi la concurrence et les coûts de gestion vissés. Les Pays-Bas, ils dépensent 6 à 7 milliards de moins que nous, proportionnellement, ce qu'on dépenserait si on se calait sur eux. Là, il y a un gisement d'économie. Sur les transports sanitaires, il y a un énorme gisement d'économie. Il y a plein de franchises qui ne sont pas payées, en réalité. Les ALD, les affections de longue durée, on a un problème. On sort jamais les personnes qui sont en ALD des ALD quasiment. Et là, y a
le pourcentage de Français qui souffrent d'ALD est absolument considérable. J'ai plus le chiffre précis, mais il y a quelque chose autour de 40%.
Raphaël,
Olivier Provost, puis
vous prenez des mesures comme le 100% santé.
Ouais.
Le 100% santé, c'est une gabegie totale. C'est une gabegie. On a pensé que c'était une bonne mesure.
Ce qui n'a pas de prix n'a pas de valeur en général.
C'est une gabegie totale. Vous prenez aussi la tarification à l'acte qui avait été lancée. Ça a tué l'hôpital en France. Fondamentalement, vous prenez toutes les réformes de la santé qui ont été faites ces 10 à 15 dernières années. Elles n'ont abouti qu'à amplifier la machine à déficit.
Et pourtant, les économies, elles sont sous nos yeux. On voit comment on pourrait économiser.
Ça, on regorge de rapports de la Cour des comptes pour améliorer l'efficacité de la dépense publique, effectivement. L'IFRAP prévoit un dérapage du déficit. On avait peur l'année dernière, finalement, on a fait 5,1% de déficit plutôt que 5,4%. Donc, est-ce que quand même la gestion budgétaire est tenue, autant c'est le bazar au moment du vote du PLF, mais en gestion infra-annuel, comme on dit. Bercy qui tient la vis, qui serre les cordons de la bourse durant l'année. Ça fonctionne plutôt bien, non, Thomas Grébin? On a déjà prévu 6 milliards d'économies, là, je crois.
Ouais, je voudrais juste revenir sur ce débat sur l'assurance maladie. Je sais qu'il ne faut pas faire ça, parce que je pense qu'il y a aussi, c'est aussi un choix de société, c'est-à-dire au-delà des économies qu'on peut faire sur le transport sanitaire, il y a différents, évidemment, postes qu'on peut rogner, mais je pense que le gros du choix, c'est un choix de société, c'est-à-dire, vous avez cité les affections de longue durée, ça représente un remboursement autour de 115 milliards par an. On estime qu'en 2030, il y aura 40% des Français qui souffriront de maladies chroniques. D'ores et déjà, les remboursements des affections longue durée, c'est 60% des remboursements de l'assurance maladie. Donc là, on voit bien qu'avec un vieillissement de la population, le développement de ces maladies chroniques, bah, le système, il va pas pouvoir tenir.
Oui, on va pas faire d'économie alors
donc
que
là,
le pays...
c'est là où, au-delà des économies un peu de bout de ficelle qu'on peut faire, c'est véritablement, est-ce qu'on s'inspire, par exemple, des pays scandinaves? En Norvège, par exemple, qui est un pays qui est plus riche que la France, ben, au-delà d'un certain âge, il y a certaines opérations qui sont plus pris en charge par la collectivité. Mais là, on voit bien qu'on est dans un débat philosophique,
oui,
presque.
Un vrai projet de société.
Un
oui,
vrai
oui.
projet de oui. société et que c'est très, très compliqué, a fortiori, dans le contexte actuel.
Après, sur l'efficacité administrative, on peut se dire que s'il y a 7 milliards...
Oui, mais bon, par exemple, le budget des ARS, qui sont souvent décriés, c'est oui. autour de 1,5 milliard par an. Donc oui, sûrement, on peut faire des économies, mais c'est pas là le gros, de nouveau, 1,5 versus 115 milliards de remboursement de l'assurance maladie. Sur la gestion budgétaire...
J'en reviens à ma première question. Est-ce qu'on va tenir les 5% cette année?
Peut-être que la bonne nouvelle, c'est que la situation est moins pire que ce qu'on pouvait escompter il y a encore un mois. C'est-à-dire qu'au début de l'année, le gouvernement prévoyait une croissance de 1%, on est descendu à 0,9%. Oui. Il faut voir que la Banque de France prévoyait il y a quelques semaines, il y a deux semaines je crois, une croissance pour 2026 de 0,5% oui. Par an. Donc là, comme le prix du pétrole
baisse... plus optimiste et prévoit 0,7.
Ouais, voilà. Mais comme le prix du pétrole le prix à la pompe baisse plus fortement que prévu, peut-être que la croissance sera plus forte que prévu et donc ça sera une bonne nouvelle d'un point de vue de recettes fiscales. Pour mémoire, si vous avez 0,2 points de croissance en plus, c'est environ 6 milliards en plus
d'activités. De recettes supplémentaires.
Bah, c'est 6 milliards d'activités en plus.
D'activités, donc et 3 milliards de recettes supplémentaires.
3 milliards de recettes supplémentaires. Donc ça permet d'amortir la casse. Quoi.
D'accord, mais est-ce qu'on se satisfait d'un pays qui est en train de se demander s'il va faire 0,5, 0,7 ou 0,9?
Ah, ça reste dans le.
Honnêtement, si à un moment on veut trouver une dynamique, il y a une dynamique d'économie et il y a une dynamique de croissance. Moi, je suis absolument sidéré qu'on soit, même à Bercy, en train à un moment de mesurer des pouillèmes de points, quand aujourd'hui la question c'est comment on redonne une croissance à ce pays, comment on innove, comment on investit pour générer une croissance qui ne sera pas à de moins de 1%. Moi j'étais même très inquiet sur le fait qu'on ne bascule pas en récession, quand vous regardez les chiffres du deuxième oui. trimestre, sur les services,
ça trimestre.
S'est très très mal passé sur les services. Hein. On a été un tout petit peu sauvé par l'industrie. Oui. Quand j'ai vu les chiffres des services, je me suis dit je ne vois pas comment on l'évite, alors apparemment, il semble qu'on va l'éviter, mais on sera vraiment
de justesse.
À
de
moi,
justesse.
Je voudrais revenir sur les recettes, parce que vous disiez finalement un peu plus de croissance.
Agnès Verdier-Molinier.
Ok, d'accord. Mais le problème qu'on a, c'est que le budget 2027, il va falloir le construire avec des trous. Parce qu'avant de partir, on a déjà des trous dans les recettes. Pourquoi? Parce qu'il y a un truc qui s'appelle la taxe exceptionnelle
surtaxe d'IS, d'impôt sur les sociétés.
Sur les grandes entreprises, cette surtaxe, normalement, elle est censée ne pas être reconduite en 2027.
Vous voulez parier?
Plus personne n'y croit.
Vous voulez parier?
Non, mais attendez. Donc, on est dans la cavalerie totale. C'est-à-dire, on nous dit 2025, on crée une surtaxe IS qu'on ne reconduira pas. On l'a reconduit pour 7 milliards en 2026. Et donc, on a déjà creusé un trou de 7 milliards pour 2027. Comment on va faire pour avoir un niveau de recette cohérent pour 27, sachant alors donc
eh ben on va maintenir déjà, la surtaxe d'impôt sur les sociétés.
Donc on est déjà parti, potentiellement sur 6% de déficit pour 27, hein, c'est ça le tarif 2027. Et ensuite la question, vous disiez par ordonnance, loi spéciale, etc., etc. Moi, je trouve qu'à un moment, au lieu de dire, en fait, on fait rien, il faut voter un budget minimaliste et tant pis pour 27, parce que c'est un peu ça qui est en train de se passer, plutôt, on devrait mettre plutôt les sujets sur la table et avoir un peu plus de courage que ce qui est
le cas. À 3 mois des présidentielles.
C'est ce qu'a essayé de faire François Bayrou, ça ne lui a pas réussi.
Mais vous dites en même temps, Raphaël, les Français s'inquiètent de la dette. Nous, on a fait un sondage à la Fondation IFRAP, les Français, à 82%, ils préfèrent la baisse de la dépense plutôt que la hausse des impôts. Et là, au lieu de
tant que ça ne les concerne pas, en général aussi, c'est la fameuse schizophrénie évoquée par Olivier Prouveau.
On a un Premier ministre qui est sacrificiel, qui nous dit « je suis là, je suis un moine soldat ». Eh bien, ce moine soldat, il devrait mettre les sujets sur la table. Il devrait dire la vérité aux Français. Là, aujourd'hui, on est encore en train de nager entre deux eaux en se disant bah finalement peut-être que ça va s'améliorer. Non, ça va pas s'améliorer.
Mais il a dit hein aux rencontres économiques d'Aix-en-Provence, j'ai perdu la bataille culturelle.
Non, mais quand le ministre des comptes publics
face à la politique de l'offre.
Non, d'accord, mais
Sébastien Lecornu, c'est intéressant.
Oui, la bataille il l'a pas menée hein entre nous soit dit. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a introduit des taxes supplémentaires. Voilà. Et sur qui? Sur les entrepreneurs et sur les entreprises. Oui. Donc, il ne faut pas qu'on ait quand même la mémoire courte.
Allez,
le ministre des Comptes publics nous dit on est sur un baril de poudre. Qu'est-ce qu'on fait hein on attend l'année prochaine, en fait, pour gérer le problème. Et ça c'est quand même, de mon point de vue, pas sérieux. Voilà.
Oui, mais vous imaginez bien qu'on ne va rien faire de spectaculaire dans le prochain PLF
À trois mois des présidentielles,
ça sera à l'équipe suivante, évidemment, de prendre des décisions.
Et même quand je lis les rapports de l'OCDE qui disent que finalement, dans la vraiment, il y a un problème de viabilité de la dette, quand même, hein, c'est leur mot. Mais que finalement, quand on est dans la situation politique et sociale de la France, finalement, ce qu'ils nous proposent, c'est plus d'augmentation d'impôts que de baisse de dépenses.
Allez, la situation politique, elle va peut-être changer. Aujourd'hui, il y a une annonce importante qu'on attend de la Cour d'appel de Paris. C'est évidemment le procès contre Marine Le Pen. Sera-t-elle en position d'être élue en 2027? On le saura en début d'après-midi, 13h30, le verdict de la Cour d'appel. Si elle ne peut pas se présenter, l'ERN a d'ores et déjà expliqué qu'elle passerait le flambeau à Jordan Bardella, président du parti. Oui, mais Marine Le Pen ou Jordan Bardella, ça n'est pas tout à fait la même ligne économique, Olivier Prouveau. On parlait ce matin sur l'antenne de BFM Business dans la matinale de comment les patrons allaient scruter cette décision de justice. Ces patrons, vous les conseillez, vous, très directement. Qu'est-ce qu'ils disent? Est-ce qu'ils ont fait un choix ou est-ce que finalement Le Pen ou Bardella, pour eux, c'est un peu la même sauce?
Alors, l'analyse qu'ils font, c'est que ça n'est pas exactement la même ligne. Il y a une ligne, alors je vais caricaturer un peu, hein, mais il y a une ligne qui connaît mieux le monde des PME, des petites entreprises, des artisans, des commerçants, qui est la ligne Marine, qui est une ligne, je tire le fil, hein, presque poujadiste.
Oui, bah c'est les racines du parti.
Exactement, qui est cette ligne historique du RN. Et il y a une ligne qui est la ligne Bardella, qui est beaucoup plus en contact, à l'écoute, en apparence, des grandes entreprises, une ligne plus libérale. Donc, il y a une ligne plus conservatrice et une ligne plus libérale. Après, dans les faits, dans la connaissance intime, Marine Le Pen a quand même une connaissance du tissu économique que quand vous grattez un peu chez Bardella, vous arrivez très très vite aux limites. C'est-à-dire qu'il donne l'impression de connaître le monde des grandes entreprises. Dans les faits, il ne le connaît pas beaucoup. Et quand il a fait des rencontres avec des patrons, les patrons en sont sortis en étant un tout petit peu effarés par le manque de profondeur de connaissance de ce monde économique.
Agnès Verdier-Molinier, vous aussi êtes en contact avec tout ce monde économique très régulièrement. Qu'est-ce qu'ils vous disent?
Alors, on ne parle pas que de ça, évidemment, avec les patrons, mais le sujet, pour moi, ça va être la clarification entre deux lignes. Il y a le sujet retraite. Pour moi, c'est le sujet fondamental du programme.
On a vu une forme de dissonance entre Marine Le Pen et Jordan Bardella sur le sujet.
C'est-à-dire que on sait tous, c'est pas la peine d'être très intelligent, que la retraite à 62 ans, ça ne marche pas. Ce n'est pas finançable, c'est impossible et ça va précipiter notre système par répartition dans une impossibilité de délivrer des pensions correctes ou même à un moment de les délivrer. Parce que finalement, pourquoi la jeunesse n'adhère pas au système de pension? Aussi parce qu'ils savent qu'à un moment, ça risque de ne pas être finançable. Donc plus on rend le système finançable, plus on incite aussi la jeunesse à cotiser, à rentrer sur le marché du travail, dans un emploi stable, etc. etc. Donc après, il y a la question de la capitalisation qui est encore un autre sujet.
Jordan Bardella s'est dit, hein, ouvert à une dose de capitalisation.
Oui, mais garder les 62 ans en disant je fais un peu de capitalisation, ça ne suffira pas.
Ça ne vole pas.
Le sujet, c'est qu'en plus, tous ceux qui sont en train de se pavaner sur l'idée de finalement faire sauter l'âge de départ, alors il y a Attal aussi, hein, puis il y a Bardella qui ont évoqué ça plus ou moins, avant de se faire plus ou moins recadrer, c'est que finalement, l'âge, il est beaucoup plus puissant en économie simplement garder les annuités. Et ça, il y avait des estimations qui avaient été faites pour le Sénat au moment du vote de la loi sur les retraites des 64 ans, qui étaient claires comme de l'eau de roche. C'était deux fois plus puissant le report de l'âge que augmenter les annuités. Donc là, il y a un problème. Et si c'est Jordan Bardella qui est le candidat, il va y avoir en interne au RN vraiment deux camps qui vont s'affronter.
Oui.
Et ça va être extrêmement violent.
Et Marine Le Pen ne va pas lâcher l'affaire. Elle explique en off très clairement. Hein. Ce n'est pas parce qu'elle n'est pas éligible qu'elle ne mènera pas campagne, bien au contraire.
Oui, parce même d'un ticket, on parle d'un ticket.
Il y a en interne au RN l'idée qu'il faut conserver le plus possible du programme de 2022.
Bah oui.
Et revenons sur juste quelques instants sur les questions fiscales. Sur les questions fiscales, qui préoccupent énormément les entreprises, puisqu'elles sont les premières concernées en général, là, on voit que le positionnement RN est extrêmement mouvant. Mmh. Nous, on a pointé à la Fondation IFRAP tous les votes PLF-PLFSS 2026 sur les sujets fiscaux. Et alors, c'est un coup de barre à gauche, un coup de barre à droite. C'est-à-dire, sur la taxation...
C'est le nouveau en même temps, finalement. Voilà. Le nouveau temple du en même temps se trouve au Rassemblement National.
Sur la taxation des grandes, des grandes entreprises qu'on évoquait tout à l'heure. Ils ont voté contre, finalement. Mais sur la CDHR, la contribution différentielle sur les hauts revenus, ils ont voté pour. Et sur l'impôt sur la fortune improductive, qui est aussi un sujet qui préoccupe potentiellement aussi le patronat, etc., ils ont voté pour. Et Jordan Bardella avait même dit à un moment, je crois que les actions, ce n'était pas vraiment productif. Enfin, après, il s'était peut-être un petit peu rétracté. Mais donc, tout ça n'est pas super clair.
Oui.
Et il faut qu'à un moment, il y ait une énorme clarification sur ces sujets pour que ça puisse paraître un minimum sérieux économiquement.
Bon, il y a quand même un projet, Thomas Grébin, commun à tous les membres du Rassemblement National.
On discutait au début de l'émission de l'effort budgétaire qui devra être fait. Ben là, on voit qu'on en est très loin. Donc, on a parlé des retraites où, en effet, Marine Le Pen reste toujours sur une ligne 62 ans, voire 60 ans, pour ceux qui ont travaillé commencé à travailler avant 20 ans. D'un point de vue fiscal aussi, il y a un certain accord, notamment sur la baisse de la TVA sur les produits énergétiques, qui pourrait coûter autour de 10 milliards. Ils veulent aussi baisser la TVA sur 500 produits de première nécessité. Ça aussi, c'est autour de 3 à 5 milliards.
Oui, mais il y a la lutte contre la fraude fiscale et sociale, Thomas Grébin, et puis les fonds contre l'immigration.
Là, on est parti pour un choc budgétaire fiscal, une baisse d'impôts qui est entre 10 et 15 milliards. Donc je pense que il y a des différences politiques entre Jordan Bardella et Marine Le Pen, mais je pense que ça va être très dur. On voit pas, même si c'était Jordan Bardella qui a été élu dans un an, on le voit pas pousser pour une réforme des retraites plus dure, que ce soit par exemple une augmentation de la durée de cotisation. Oui. C'est-à-dire que ce qui risque de faire, c'est de temporiser. Enfin, les deux risquent de temporiser. Par contre, il faudra faire des gestes, je pense, pour les ménages. Et donc, c'est là où nos 5% de déficit, ils pourraient être bien plus élevés dans un an, quoi.
Avec, allez, un mot rapide, Olivier.
Il faut savoir qu'il va y avoir une épreuve de vérité pour l'un ou pour l'autre, c'est le débat. Le débat d'entre deux tours.
Oui.
Or, rappelez-vous, débat d'entre deux tours, Marine Le Pen, Emmanuel Macron, où elle s'était complètement mêlée les pinceaux sur les sujets d'entreprise, Alstom, etc. Elle s'était fait reprendre par Macron comme un professeur reprend son élève. Ça n'avait pas été bon pour sa crédibilité. Bardella, face à ce même type d'épreuve, je ne sais pas, Marine, elle a appris. Elle a été déjà meilleure dans le débat de la dernière élection. Aujourd'hui, elle sera plus mieux armée. Bardella, dans un débat comme ça, face à un candidat qui tient un peu la route, qui est passé par Matignon, par exemple, que ce soit Édouard Philippe ou Gabriel Attal, ça va être compliqué pour lui.
Ou Sébastien Lecornu, qui sait. On peut encore avoir des surprises très vite.
Mais de toute façon, il ne faut pas se leurrer, quel que soit le prochain gouvernement au pouvoir, et quelle que soit sa majorité aussi, parce qu'on peut très bien imaginer qu'il y a un gouvernement avec une couleur politique et que derrière, il n'y ait pas non plus de majorité.
De majorité, bien sûr, c'est le principal risque de 2027.
Il ne faut pas oublier pour nos auditeurs que de toute façon, ça va demander quand même une dissolution. Tout ça, ça va être très compliqué après les présidentielles. Et quoi qu'il en soit, Il va y avoir un pricing sur la France et à un moment, les masques vont tomber et on va dire, OK, c'est quoi la vraie valeur de gestion financière de la France.
La seule corde de rappel, les marchés obligataires, évidemment. Il faudra surveiller d'abord comment réagissent les taux après l'annonce de justice.
Là, on va voir la situation, le niveau de taux sur la dette à 10 ans. Ouais. Et nous, on a fait une projection. Hein, même si on est à 4% en moyenne sur les adjudications jusqu'en 2032, on va se retrouver avec une charge de la dette à 147 milliards en 32. Il faut quand même se dire la monstruosité du truc qui est en train de nous arriver. Et c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire à un moment, la boule de neige qui va se mettre en place, qui est déjà en train de se mettre en place.
Et qui risque de nous étouffer. La grenouille de la marmite.
Comme disait Warren Buffett, c'est quand la mer se retire qu'on voit ceux qui se baignent sans maillot.
Exactement. Allez, ce sera le mot de la fin de cette première partie. On va parler Allemagne et réarmement allemand juste après une courte pause. Et puis l'IA chinoise, moins chère que les autres, tout aussi performante. Mais le prix vaut-il le risque? Ne quittez pas, on se retrouve tout de suite.
BFM Business et la Tribune présentent les experts. Raphaël Legendre.
On est de retour pour la seconde partie de l'émission. Il est 10h02, vous êtes toujours en direct sur BFM Business. C'est les experts avec autour de la table Agnès Verdier-Molinier, directrice de la fondation IFRAP, Thomas Grébin, économiste à Sciences Po et Olivier Provost, directeur et associé de Rumeurs Publiques. On va partir à l'international, pas très loin, en Allemagne maintenant. L'Allemagne qui, à la veille du sommet de l'OTAN, a dévoilé, c'était hier, une trajectoire budgétaire qui prévoit, tenez-vous bien, quelque 600 milliards d'euros d'investissement dans la défense d'ici à 2030. Olivier Provost, c'est des questions que vous connaissez bien, hein, ces sujets d'industrie et de défense. L'Allemagne qui se réarme, est-ce que c'est une bonne nouvelle pour l'Europe ?
Alors, fondamentalement, oui, on n'est pas dans l'Allemagne des années 30, on est aujourd'hui... Alors, il y a un paradoxe quand même, hein, c'est que quand vous avez une industrie d'armement, c'est que vous avez à un moment une stratégie de défense.
Oui.
Aujourd'hui, la France a une stratégie de défense qui va même jusqu'à la dissuasion. Quelle est la stratégie de défense de l'Allemagne ?
Personne ne le sait pour l'instant.
Hein. Mais de même parce qu'il n'y a pas non plus de stratégie de défense européenne. On l'a bien vu sur le dossier ukrainien. Oui. Donc, fondamentalement, cet effort-là, au service de quoi ? C'est la première question à se poser. La deuxième, quand même, c'est de se dire, ces 600 milliards, c'est le coût du rattrapage. L'Allemagne, sur l'industrie d'armement, a 20 ans de retard. Il y a des secteurs où elle est assez forte, l'industrie d'armement terrestre, et on le voit que dans l'Alliance...
Rheinmetall est quand même Rheinmetall, géant européen.
Dans l'Alliance de KNDS, à un moment, oui. qui a marié notre... Fondamentalement, c'est eux qui ont la main. Mais vous prenez les avions de combat, et on vient de le voir avec le divorce sur le SCAF, honnêtement, aujourd'hui, l'Allemagne est incapable de concevoir un avion de combat. On peut se poser la question dans d'autres domaines. Le modèle des missiles, elle est membre de MBDA. Mmh. C'est Airbus, dont la partie Airbus Allemagne, qui est au sein de notre grand missilier européen, qui est une fantastique réussite à MBDA. Mais fondamentalement, l'Allemagne, elle a des avantages et elle a du retard à rattraper. Et il suffit pas de mettre de l'argent sur la table. Quand vous avez des technologies comme développées comme Dassault, à un moment sur les commandes de vol électrique d'un avion de combat... Fondamentalement, c'est pas une affaire de milliards. C'est une affaire de savoir-faire et il faut 20, 30, 40 ans. Je parle même pas de la dissuasion nucléaire. Sur la dissuasion nucléaire, ça a été un effort français de centaines de milliards sur 50 ans. Ça ne se rattrape pas. L'Allemagne reste dépendante de la dissuasion nucléaire américaine. Je ne sais plus ce qu'elle vaut aujourd'hui.
Oui.
Et même sur les sujets du renseignement, alors on est un peu dépendant, mais ils sont complètement dépendants des satellites Kiel américains. Je rappelle juste que, de mémoire, le patron des services secrets allemands reste toujours, à un moment, nommé avec le coup de tampon de la CIA.
Et il était en Ukraine le jour de l'invasion par les Russes.
Voilà. Donc, oui, 600 milliards, mais 600 milliards pour faire quoi? Si c'est pour renforcer leur savoir-faire dans certains domaines, type l'armement terrestre,
oui.
sur lequel il va falloir, nous, qu'on se raccroche, très bien. Si c'est un moment pour acquérir des technologies que nous, on a
concurrentes.
Déjà... Quel est l'objectif ?
C'est la question que j'allais poser, Thomas Grébin. Est-ce qu'on peut pas penser en européen ? Ils ont l'argent, on a la technologie, il y a peut-être des choses à faire ensemble. Alors, on voit que le SCAF, effectivement, l'avion de défense européen, c'est conclu par un échec, mais ça pose encore une fois la question de la planification et de la stratégie européenne de souveraineté, tout ça.
Ouais, et puis des modèles industriels et militaires qui sont assez différents. Et là, la question, c'est pour la France. C'est c'est-à-dire on est sur, toujours le deuxième exportateur mondial au niveau, enfin le deuxième exportateur mondial d'armes, mais quand vous regardez au niveau européen, on n'est que le troisième, enfin exportateur au niveau européen.
Oui, c'est
on est
ça, très c'est-à-dire loin. Qu'on vend des armes, mais hors Union européenne.
Exactement, on est très loin des États-Unis et on est même dépassé par les Allemands. Donc certes, on a une stratégie militaire qui en grande partie repose sur la dissuasion, mais c'est pas le modèle des autres pays européens et donc c'est très difficile d'avoir une coordination sur ça. Et donc, ce qui fait aussi que quand on regarde les autres pays européens, il y a 30% des équipements, enfin 30% des équipements militaires qui sont importés. Donc déjà, même quand les Allemands vont dépenser plus, ben, il y a une grosse partie qui va bénéficier aux Américains. Et c'est oui. 50% de ces importations qui viennent des États-Unis.
Ça, c'est un enjeu majeur quand même. Hein. C'est où va aller cet argent effectivement. Est-ce que ça va profiter à l'Europe ou est-ce que ça va partir aux États-Unis, Agnès Verdier-Molinier?
Bah là, c'est un enjeu énorme. Hein. D'ailleurs, au niveau européen, ils ont dit maintenant, on veut produire nous-mêmes et s'acheter à nous-mêmes 65%.
Ah oui, c'est la préférence européenne, grand sujet en ce moment.
Du matériel militaire, mais ils partent de 78% d'importation. Donc là, il y a un truc qui va pas. Et par ailleurs, il faut pas du tout se leurrer. Les Allemands, ils sont en train de mettre énormément d'argent sur la table aussi. D'une certaine manière, c'est pour renflouer leur industrie, hein, transformer leur industrie. Donc, ils veulent s'acheter à eux leur propre matériel militaire. Ils n'ont pas du tout envie de faire marcher la BITD française, hein, la base industrielle française de défense. Ils veulent surtout faire fonctionner leurs propres usines, sachant qu'aujourd'hui, l'automobile ne va pas bien et que, justement, Rheinmetall, bah, ils sont un peu dans les deux secteurs. Ils sont défense, mais aussi équipement pour l'automobile. Donc, on va voir en fait toute une bagarre hein, entre la France et l'Allemagne sur ce sujet. La vision angéliste, c'est de dire bah, finalement, l'argent des Allemands va aller financer la production industrielle de défense
française. C'est un peu ce qu'on s'était dit au moment de l'annonce du méga bazooka de 1000 milliards, 500 milliards d'infrastructures, 500 milliards de défense.
Ça c'est
un doux rêve, quoi. C'est comme le couple franco-allemand, ça n'existe qu'en français.
Vous savez, quand on refait l'histoire, hein, quand on regarde ce qui s'est passé sur le nucléaire, est-ce que les Allemands nous ont soutenus, nous ont aidés, nous ont poussés finalement à être excellents dans le nucléaire. Non, ils nous ont mis des bâtons dans les roues pour nous empêcher justement de nous développer. Ils nous ont incités à fermer des centrales, etc., etc. Donc, je crois qu'en fait, il y a un match, hein, il y a un match, une compétition économique, et que si on met pas en place des règles pour justement faire en sorte que on nous commande à nous, parce qu'on a une industrie de défense exceptionnelle, hein, entre Dassault, bon, MBDA qui est pas que français,
Thales,
on a des champions et on a Naval Group qui est extraordinaire, qui a eu en fait en plus des commandes exceptionnelles ces derniers temps. Donc on a des atouts français et c'est un des seuls secteurs où on a aujourd'hui des atouts formidables. Donc là il y a un sujet. Moi j'aurais voulu aussi revenir sur l'histoire du frein à l'endettement allemand, parce que pourquoi est-ce que il y a eu un sous-investissement aussi dans la défense en Allemagne, c'est aussi lié au frein à l'endettement.
Schwarz-Null.
Et au fait que finalement, ils n'ont pas tellement sanctuarisé leurs investissements, même si en réalité, ils n'ont pas beaucoup moins investi que la France. En fait, nous, on dépense beaucoup, mais on n'investit pas beaucoup non plus. Hein. Faut être honnête aussi quand on regarde les chiffres et les comparaisons internationales. Mais ce frein à l'endettement, là, ils l'ont desserré sur la défense. Et c'est quand même très intéressant parce que dans la campagne 2027, on va parler du frein à l'endettement, de la règle d'or pour la France.
Oui, absolument.
Il y a une grande majorité de nos concitoyens, il y a autour de 78% des Français qui sont pour l'application d'une règle d'or.
Une règle d'or, on le rappelle, c'est de contraindre le législateur, nos députés, nos sénateurs, à voter un budget à l'équilibre. Voilà. Vous n'avez plus le droit de faire de déficit.
Et alors, les Allemands, quand
avec
ils
les
ont
dépenses
mis
le
frein à l'endettement en place, ça a été incroyable parce qu'en 3 ans, ils étaient dans les cordes hein, du 0,35 maximum du PIB d'endettement par an. Nous, on est en train de faire tous les travaux d'alignement là, à la Fondation pour voir combien de temps ça nous prendrait, la phase de qualification, etc., sans augmenter les impôts, en ajustant en dépenses, etc., etc., en sanctuarisant justement les dépenses de défense. Eh bien, c'est extrêmement long, enfin, c'est extrêmement difficile. Et ça veut dire que...
C'est quoi, c'est 5 ans, 10 ans?
Bah,
On parle de 120, 150 milliards d'économies.
En fait, il y a toute une période avant d'être à 0,35. Hein, là, si on se dit, on fait comme les Allemands, on se met 0,35 maximum du PIB d'endettement nouveau par an dans les périodes qui ne sont pas des périodes de récession, de crise grave, etc. On est plutôt à 2034-2035 pour arriver à la période...
Moins de 10 ans pour revenir à l'équilibre.
À la fin de période de qualification.
Ah oui. Hein,
et ensuite, on passe au 0,35. Donc, on est quand même sur cette question du frein à l'endettement et de la règle d'or. Je trouve qu'aujourd'hui, les candidats à la présidentielle, d'ailleurs, Édouard Philippe, il en a quasiment pas parlé hein, dans son discours de dimanche, on se dit, mais finalement, est-ce qu'on explique bien les choses aux Français ? La situation dans laquelle on est et comment on va faire pour atterrir. Parce que, le narratif sur comment ça va fonctionner, comment on atterrit sur une règle d'or, comment on respecte nos engagements, etc. Comment on
Donc vous demandez des précisions sur les voies et moyens d'imposer cette règle d'or. Quoi. Il ne suffit pas de la décréter, mais comment on y arrive et quelles sont les conséquences.
Il ne suffit pas d'être assis sur son siège et de dire on va faire la règle d'or et de ne pas aller plus loin.
Alors que 10 ans, ce n'est pas si long.
Thomas Grébin.
Bon, deux points. Bon, d'une part, je suis pas sûr que même en France, la règle d'or, ça fonctionnerait. On avait le traité de Maastricht.
On l'a jamais respecté.
Ouais, et puis sur la sécurité sociale, on n'est pas censé normalement faire des déficits. Là, de nouveau, on a presque 20 milliards de déficits structurels. Juste sur l'Allemagne, ce qui me semble quand même intéressant, c'est quand même le changement de logiciel depuis quelques mois en Allemagne. Donc, il y a évidemment cette question du frein à l'endettement.
C'est tout le modèle économique qui est.
Ouais, il y a cette question de l'augmentation spectaculaire des dépenses militaires. Et puis, la semaine dernière, dans le document, les propositions publiées par le chancelier, vous voyez aussi au niveau international, c'est-à-dire que maintenant, l'Allemagne soutient des clauses de contenu local, c'est-à-dire de la préférence européenne.
Oui.
Ils soutiennent le fait qu'il faut diriger la commande publique et même ils soutiennent la proposition française de mettre des droits de douane sur des secteurs entiers. Donc ça encore, c'était inimaginable en Allemagne il y a quelques mois et on voit bien que sur plein de sujets, en fait, l'Allemagne est en train de se réveiller.
Ça avance,
on verra si en pratique les choses changent vraiment, mais en tout cas, il y a quelque chose d'assez spectaculaire qui se passe. Quoi.
Bon, Olivier.
Juste une idée totalement iconoclaste qui va vous faire sourire. Moi, je pense que la seule chose que la France peut à un moment monnayer au niveau européen, c'est sa force de dissuasion.
Ah oui, c'est son parapluie nucléaire, bien sûr.
Si on tire le fil, si Trump lâche, si il va annoncer une réduction des troupes américaines d'au moins 10 000 hommes, il va l'annoncer.
Sur le sol européen.
Voilà. Si à un moment il lâche ça, et que les Européens se disent « il nous faut un parapluie nucléaire », le seul qui est capable de nous l'offrir, parce qu'on est capable de l'offrir,
et la Grande-Bretagne.
C'est la France. La question, c'est quel est le prix de ça ? Et le prix de ça, à un moment, c'est peut-être la seule arme qu'on puisse avoir, compte tenu de la dérive de nos déficits, où à un moment, on peut récupérer de l'argent de nos alliés ou récupérer un peu de mansuétude sur nos déficits, si on arrive à un moment à étendre ça. Ça n'est pas facile, comme je disais, c'est un peu iconoclaste comme idée, mais je pense que la France, ça fait sourire Agnès, mais je pense que la France a un coup à jouer, parce que c'est quasiment avec l'énergie, la seule arme dont on dispose, où on peut aller parler à nos partenaires en disant, je mets ça sur la table, vous mettez quoi en face ?
C'est pas évident que dans les nouvelles formes de guerre, les Européens soient si sensibles à la dissuasion nucléaire.
Avec la Russie ?
On voit bien qu'en Ukraine, par exemple, qui a réussi à développer une base industrielle, c'est plutôt sur une forme d'agilité, notamment sur les drones. Et donc, je ne sais pas si on discutait tout à l'heure.
Il y aura les deux.
Le modèle stratégique de l'Allemagne.
Il y aura un modèle où vous aurez des drones légers, pas chers, sur le terrain. Et vous faudra aussi avoir un parapluie nucléaire au cas où, à un moment, ça dégénère. Et Poutine a brandi plusieurs fois la menace nucléaire. Donc, à un moment, avoir une force de dissuasion, c'est pas neutre.
Non, mais sur la dissuasion, je pense qu'il faut se réjouir d'avoir gardé cette dissuasion. C'est formidable et ça nous donne une indépendance en France qui est exceptionnelle. Après, la dissuasion, elle repose aussi un peu sur le nombre d'ogives. Alors, ça fait un peu combien t'en as, mais quand même, on voit que la Chine est en train de se doter d'un nombre d'ogives incroyable, qu'ils ont multiplié le nombre d'ogives et qu'ils vont encore continuer à multiplier le nombre, qu'ils vont arriver autour des 600. Nous, on est autour de 290. 2010, quand le président de la République est intervenu sur l'île Longue, sur ce sujet, il a dit quoi ? Il a dit maintenant, on ne communiquera plus sur le nombre d'ogives.
Oui.
Moi, je suis partagée sur ce positionnement, parce que si on veut se positionner justement comme un pays qui permet d'avoir un parapluie, un petit parapluie peut-être, hein, parce que quand même, les États-Unis, c'est un gros parapluie. Hein, nous, on petit parapluie. Et si le petit parapluie, on ne connaît pas trop la taille du parapluie et qu'on ne sait pas comment exactement dans quel état il est...
Ça fait partie de l'ambiguïté stratégique en même temps.
Je trouve que même si on a des super sous-marins lanceurs d'engins, ça ne remet pas du tout ça en question, il y a quand même des questions à se poser sur finalement la taille critique de la dissuasion française. Et ça, certains balaient ce sujet du revers de main, sauf qu'en réalité, tous ceux qui s'arment, ils s'arment avec un nombre d'ogives qui est absolument colossal aujourd'hui. Et je voudrais revenir quand même sur le sujet allemand et sur le sujet budgétaire allemand. Ils ont dit effectivement les 600 milliards en défense, etc. Ils ont créé en fait un énorme coup de canif sur leur frein à l'endettement, mais ils ont dit aussi qu'ils voulaient résorber entièrement leur déficit de 34 milliards d'euros prévu pour 2027. Et comment ? Ils vont supprimer la retraite anticipée à 63 ans, resserrer les règles d'arrêt maladie, et donc ils vont continuer à rogner en fait sur le modèle social pour financer la défense. Nous, il est où le rognage sur le modèle social ? Pour l'instant, on ne le voit pas du tout, hein, vous l'avez très bien exprimé tout à l'heure, c'est là où il y a le point de fuite de nos dépenses. Et tout en disant, nous, la France, on veut se réarmer aussi plus, parce qu'il ne faut pas non plus exagérer la situation de nos équipements en défense aujourd'hui en France. Il y a énormément d'investissements à faire dans les prochaines années. On a, ce que disent ceux qui connaissent le sujet, on a une armée échantillonnaire. Hein, et on ne tient pas longtemps dans une guerre de haute intensité. Donc, à un moment, il faut aussi que nous, on ne regarde pas que le sujet qui nous intéresse. Oui, les Allemands, ils sont en train d'assouplir leurs règles d'or. Mais ils vont visser à mort leurs dépenses sociales.
Oui.
Et ça, qui en parle ? Pas tellement, on n'en parle pas tellement.
BFM Business, quasiment quotidiennement, chère Agnès Verdier-Molinier. Écoutez l'antenne, vous verrez. Bon, il se passe dans la défense, ce qui se passe dans le numérique, c'est qu'on est sur la montée des empires et que l'Europe est en retard, comme elle est sur le numérique, sur la robotique et sur tant de sujets. Cette information simplement qui vient de tomber, l'urgent de l'AFP, deux explosions, deux bombes sont tombées à proximité de l'hôtel où se trouve le président français, qui est sain et sauf et poursuit sa visite en Syrie, assure à l'instant l'Élysée. Il nous reste une petite dizaine de minutes ensemble. Je voulais qu'on passe à ce dernier sujet sur l'IA chinoise. L'IA, toutes les entreprises sont en train de tester le retour sur investissement en quelque sorte, et on entend de plus en plus de voix de chefs d'entreprise nous expliquer que quand même, certaines coûtent extrêmement cher pour des services pas toujours faciles. Bah oui, sauf qu'il y a une alternative, c'est l'alternative chinoise qui arrive et qui, comme le reste, est souvent bien moins chère et tout aussi, voire davantage, plus performante que certains modèle. Est-ce qu'il faut confier, il y a un papier passionnant dans les Échos hein, aujourd'hui, à un moment, il faut faire un arbitrage de coûts, ces entreprises qui utilisent déjà des modèles d'IA chinois. Longtemps, le sujet a été tabou. Hein. C'est plus le cas aujourd'hui, Olivier Provost.
Alors, c'est marrant que vous ayez mis ce sujet à l'heure du jour, Raphaël, parce que j'ai dîné hier soir avec un grand patron français, on a parlé de ça. Et lui m'a dit, il ne le dit pas publiquement, hein, bien sûr, j'utilise de l'IA chinoise. Il utilise Anthropique, hein, il utilise Claude, mais il utilise aussi de l'IA chinoise. Et il dit, fondamentalement, dès lors que j'arrive quand même avec des systèmes de firewall à protéger un certain nombre de données confidentielles, mais je sais que...
Il pense vraiment pouvoir protéger ces données...
Alors, il ne met pas tout dans l'IA chinoise, mais fondamentalement...
Et je parle d'Anthropique comme des chiffres des Américains, comme des Chinois
sûr,
d'ailleurs,
hein,
faut être très clair.
Mais hein. Fondamentalement, ce qu'il me dit, c'est... Évidemment, je lui dis, mais pourquoi tu ne travailles pas avec Mistral ? Et il dit, mais moi je discute avec Mistral,
oui.
Mais encore faut-il à un moment que Mistral ait envie de bosser avec moi et la bande passante pour le faire. Donc il dit, fondamentalement, dès que Mistral sera prêt, je fonce, mais en attendant, il faut bien que je développe ma boîte. Je ne vais pas me dire, je ne fais pas du tout d'IA, parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas à un moment un partenaire français. Et dans ce cas-là, en fait, il a la thèse qui est bien expliquée dans le papier que vous citiez, de je ne mets pas tous mes œufs dans le même panier.
Oui.
Et donc à un moment, je fais un peu d'Anthropique et je fais un peu d'IA, avec l'avantage de l'IA quand même, c'est la sobriété. Ils ont développé, on pense à DeepSync, etc.
Oui.
Ils ont développé des modèles d'IA qui sont, en termes de tokens, hein, qui sont infiniment moins
plus sobres, absolument.
Infiniment moins coûteux que les modèles américains.
Eh oui, Thomas Grébin.
Ce
qui est intéressant dans ce débat, c'était qu'il y a quelques mois, on parlait de la puissance extraordinaire que permet l'IA, et il y avait cette course à la puissance. Et puis là, on est revenu un plus à un discours qu'on pouvait avoir il y a quelques années, c'est-à-dire minimiser les coûts. Et peut-être qu'on va vivre dans quelques mois ce qu'on a vécu pendant longtemps sur l'industrie, c'est-à-dire on a donné la priorité au moindre coût, le fait qu'on produisait en Chine parce que ça permettait évidemment des gains de pouvoir d'achat à court terme pour le consommateur. Et on voit bien la tentation de reproduire ce discours pour l'IA chinoise.
Ah oui.
Parce que c'est vrai que l'IA chinoise est en train de rattraper les meilleurs modèles américains. On voit que l'écart n'est plus si important avec des coûts. Alors certains disent... C'est 10% moins fort technologiquement, mais c'est 10 fois moins cher. Et donc, on voit bien qu'il y a une tentation, y compris, c'est ça qui est impressionnant, pour des multinationales anglo-saxonnes, que ce soit Airbnb, que ce soit Uber Eats, de s'attacher les services d'IA chinoise. Et donc là, il y a quand même un débat stratégique qui va se poser. Est-ce qu'on va de nouveau faire le choix du moindre coût, qui peut très bien s'expliquer vu l'augmentation, l'explosion des coûts qui sont liés à l'IA, mais avec des enjeux géostratégiques majeurs. Et vous avez parlé de Mistral. Ce qu'il faut voir, c'est que malheureusement, dans les usages au niveau mondial, la part de Mistral ne fait que baisser depuis quelques mois.
Et oui, et qui arrive, on en parlait sur ce plateau, en 54e rang aujourd'hui des IA internationales. Agnès Verdier-Molinier, même question, est-ce qu'il faut avoir peur de l'IA chinoise ou est-ce que de facto elle est là, aussi efficace, 5 à 10 fois moins chère? Et en open source?
C'est dommage, mais on ne peut pas ne pas comprendre les chefs d'entreprise et tous ceux qui ont à gérer des structures aujourd'hui, qu'elles soient entreprises ou fondations comme nous, par exemple. Évidemment, on essaie toutes les IA, on essaie de faire des arbitrages entre les unes et les autres, on regarde les prix, on regarde la puissance et on regarde le rendu du travail pour voir quelle est la meilleure qualité. Et évidemment, ça fait mal au cœur parce qu'on se dit... qu'on a beaucoup de gâchis en fait en Europe sur ce sujet. Je ne vais pas revenir aux années très très antérieures, mais quand même, au début des années 2000, nous à la Fondation IFRAP, on allait voir beaucoup de parlementaires, de décideurs, en leur disant « attention, les États-Unis sont en train de faire une révolution, ils financent énormément des start-up de l'Internet qui vont faire des choses incroyables, ça a donné les GAFAM ». Et ces GAFAM, ils font de l'IA. Et en fait, à l'époque, on nous regardait avec des grands yeux en disant « Mais pourquoi est-ce qu'il faut des business angels? Pourquoi est-ce qu'il faut financer les startups? Pourquoi est-ce qu'il faut des entreprises à fort potentiel de croissance ?» Et en fait, le débat en France, c'était toujours « Oh là là, vous allez aggraver les inégalités. » C'est ça le problème. C'est ouais. Qu'en fait, on n'est pas capable de comprendre qu'il faut mettre du capital pour financer des boîtes, pour être dans la compétition internationale. Et vous pouvez reprendre tous les travaux de la Fondation IFRAP sur ces sujets, start-up, entreprises de croissance. On avait montré la vitesse ascensionnelle sur le nombre d'emplois créés en fonction du capital qui était investi au démarrage. On avait proposé des mesures d'investissement, de déduction d'ISF, d'IR pour pouvoir investir dans des sociétés.
Ah oui, on en paye le prix. Évidemment.
Et non, mais c'est grave parce que on n'est pas capable d'avoir une fiscalité qui est pro-entrepreneuriale. Alors, je parle surtout de la France, mais en Europe. Globalement, c'est pas très éloigné. On n'a pas de capitalisation pour les retraites. Résultat, on n'a pas financé les boîtes de l'internet, de la tech, etc. Et derrière, et de l'IA. Et derrière, qu'est-ce qu'on a? Eh ben, on se fait manger par les Américains et par les Chinois. Et ensuite, on dit, oh là là, on n'a pas vu le coup venir. Bah, je suis désolée, il y a quand même beaucoup de gens qui ont alerté. Et en France, on n'écoute pas les lanceurs d'alerte.
Vieux mythe français du capitalisme sans capital.
Ce sera le mot de la fin. Merci à tous les trois.
L'entreprise à 1 euro.
Agnès voilà. Verdier-Molinier.
Qu'est-ce que ça donne l'entreprise à 1 euro? Eh ben,
Thomas
ça donne
Grabine.
Rien. Voilà.
Et Olivier Provost pour cette émission passionnante disponible en podcast et replay. Tout de suite, c'est Air et Défense, animé par Michel Cabirolle et Jean-Baptiste Huette. Quant à nous, on se retrouve demain, même heure, même endroit. 9h30, en direct sur BFM Business. Très bonne journée à tous.
Les experts, débats et controverses sur BFM Business.